24 sur voafrique.com. I have a dream. It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, vous suivez l'Amérique, vous, Eric Manila Kiza, avec vous, Lionel Lunanela Gahima, sur la mise en onde. Vous l'avez suivi sur nos antennes, le président américain Donald Trump a été mis en accusation mercredi au Congrès pour incitation à l'insurrection après l'assaut du Capitole par ses partisans. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, s'est prononcée en faveur de l'impeachment par 232 voix, dont 10 républicains, contre 197. Ce vote marque l'ouverture formelle de la procédure de destitution contre Donald Trump. Il est impossible que le Sénat puisse juger de manière équitable Donald Trump avant la fin de son mandat, le 20 janvier, a estimé mercredi le chef de file républicain de la Chambre haute, Mitch McConnell. Quelles sont les implications de tout ça? Nous en parlons dans un instant. Notre premier auditeur en ligne, c'est le professeur Jean-Pierre Bonguina depuis le Minnesota. Votre réaction, professeur?
Les États-Unis auront été le berceau de la démocratie, surtout pour le monde moderne. Une incitation à l'insurrection, parlant de crime, c'est quand même quelque chose de fort. Et si les représentants du peuple ont réagi, ce n'est pas par besoin de simple réaction ou simplement parce qu'ils sont tous contre Trump, mais c'est d'abord pour protéger la démocratie dans le monde et la démocratie aux États-Unis. Mais ils partent à partir des évidences. Trump lui-même aura parlé à ses supporters et il leur a demandé d'aller au Capitole. Et c'est lui qui a dit que vous n'allez pas récupérer notre pays avec la faiblesse, mais il vous faudra vous battre pour récupérer le pays. C'est un message très clair. Il n'y a pas à justifier ça d'une manière ou d'une autre, mais c'est un message qui parle à tout le monde, ses partisans, qu'il faut aller envahir. Et le plan était plus macabre qu'on l'a vu. Le plan, c'était de pendre le vice-président parce qu'il n'a pas voulu renverser les élections. Le plan, c'était de pendre même la présidente du Parlement et certainement de tuer le plus de démocrates possible. Et donc, il y aurait comme un état de guerre et M. Trump se présenterait et dirait au peuple, voilà, nous sommes dans un état de guerre et c'est le plan Marshall qui va s'établir, les militaires prennent le pouvoir et puis donc il se maintiendrait au pouvoir pendant des années en attendant de réorganiser certaines élections et il serait toujours au pouvoir. Ça, ce serait l'écroulement complet de la démocratie telle que nous la connaissons dans le monde. Je pense que le temps était venu pour que les parlementaires se décident de faire quelque chose et de prendre des mesures voulues. Ça montre au monde d'ailleurs que personne n'est au-dessus de la loi et qu'on ne va pas former des rois maintenant et on ne va pas obéir aux caprices de certaines personnes, de certains individus qui voudraient se maintenir comme empereur ou comme roi. La décision est bien arrivée, malheureusement. Ça n'ira peut-être pas jusqu'à voir Trump quitter le pouvoir avant l'inauguration de Biden, mais pour moi, la décision est la bienvenue. Ce qui est fort et ce qui donne un ton sérieux au pays du monde, c'est que les institutions aux États-Unis fonctionnent comme il faut. Pour prendre la Cour suprême qui ne voulait pas aller vers ce que Trump leur demandait de faire, d'annuler les élections. Le vice-président lui-même a désobéi à Trump. Et donc, vous avez même les secrétaires d'État dans d'autres États comme la Géorgie qui aura désobéi aussi à Trump. Et ils ont maintenu la fermeté et l'indépendance de la Constitution. Donc, ils jurent en fait leur obéience à la Constitution plutôt qu'à un individu. Et ces institutions-là auront sauver la démocratie aux États-Unis et au monde.
Et quelle est la lecture que vous faites de la prise d'opposition de l'armée à quelque chose d'inhabituel?
C'est ça que je disais, que les institutions sont solides. L'Américain croit foncièrement en sa démocratie comme si c'était vraiment une religion. Et même l'armée comprend ça très bien. L'armée s'est toujours dit dans ce pays ici qu'elle n'intervient pas dans ce qui est de la matière politique. L'armée veut servir son peuple et elle veut servir la démocratie américaine dans le pays et à l'étranger. Donc, que l'armée dise que nous voulons la paix dans ce pays-ci et nous n'allons pas intervenir et que nous voulons maintenir les idéaux de ce pays-ci. Nous ne voulons pas qu'il y ait des insurrections. N'allez pas prendre les capitales, par exemple, des États et nous allons maintenir la discipline. Ça, c'est le rôle d'une armée qui comprend ce que c'est que maintenir la paix dans le pays et en dehors du pays. Et j'étais vraiment heureux de savoir d'apprendre que l'armée se voulait vraiment indépendante vis-à-vis de la politique et voulait faire son travail pour maintenir les idéaux de ce pays-ci et notamment les idéaux démocratiques.
L'émission, c'est l'Amérique et vous. Dans le Minnesota, le professeur Jean-Pierre Bonguila. Merci.
Merci, Eric.
En Californie, nous retrouvons Dennis Beaver, il est avocat. Vous avez voté pour le président Donald Trump. Bonsoir.
Puisque j'avais tellement peur des gauchistes, hein, disons les associés de Biden, donc je n'ai pas vraiment voté pour Trump, mais contre Biden.
Quelle est votre réaction par rapport à la mise en accusation du président Trump par le Congrès pour incitation à l'insurrection?
C'est une bonne chose. Hein. C'est lui l'empereur.
Mais vous lui avez quand même donné votre voix. Vous avez placé votre confiance en lui.
Oui, mais c'est pas ça exactement, puisqu'on ne savait pas du tout qu'il allait réagir comme ça. Hein. Qui pouvait prévoir ce qu'il a fait? Il essaie vraiment de garder le pouvoir illégalement. Personne ne pouvait prévoir ça. Impossible. Au moins, j'ai voté pour lui, mais c'était vraiment... J'ai voté contre Biden. Ça, c'est pourquoi j'ai voté pour Trump.
Est-ce que vous pensez qu'il a perdu dans les urnes?
Ah, évidemment, il a perdu. Il n'y avait pas de fraude. Et, tu sais, il savait, il y a des mois et des mois, qu'il avait une bonne possibilité de perdre. Donc, il a inventé ces histoires de conspiration, que les gens qui allaient voter, ils ont fauché des élections, tout ça. Donc, il a créé ce mouvement, les mensonges, grands mensonges, tu répètes suffisamment la même chose qu'il a fait constamment, et des gens qui vont croire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il est tellement dangereux.
Biden a promis l'unité. Est-ce que vous pensez qu'il va y arriver?
Ça va être difficile. Biden, on sait qu'il est quelqu'un qui perche à des compromis. Hein, il écoute. C'est pas quelqu'un qui est borné. Il veut que tout le monde travaille ensemble. C'est ce qu'il a montré à travers sa vie politique. Donc, je suis confiant qu'il va vraiment il va tenter de réunir le pays.
Est-ce que vous croyez toujours à la force de la démocratie américaine avec ce qui s'est passé?
Alors, tu sais, maintenant, j'ai peur. J'ai vraiment peur à cause de ce que Trump a fait, ce qu'il a créé, les doutes, violences. Les gens partout dans le pays qui sont terriblement dangereux. Donc notre démocratie est menacée, si je peux le dire.
Mais il y a moyen de s'en sortir.
On va voir, oui. Heureusement, ils sont en train de poursuivre les gens qui ont envahi le Capitole, mais sont des moments difficiles, hein, je vois, dans l'avenir pour nous autres Américains. Et tu sais, toute ma vie ici en Amérique, je suis Américain 100%, en Californie, fier de mon pays, mais maintenant, j'ai peur.
Monsieur Beaver, merci beaucoup pour votre contribution dans l'Amérique et vous.
Merci à toi.
Vous écoutez toujours l'Amérique et vous. Nous allons à Atlanta pour retrouver Monsieur Ismaël Diallo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez vu cette attaque du Capitole. Est-ce que vous avez été surpris à une situation du genre qui se passe aux États-Unis?
Surpris qu'il y ait cette meute qui attaque le Capitole, qui est un lieu mythique, oui. Mais surpris qu'il y ait des manifestations du genre aux États-Unis, non. Et quand le président américain à venir, c'est-à-dire Biden ou d'autres leaders politiques disent que c'est un phénomène sans précédent, ce n'est pas vrai du tout. Oui, sans président en ce sens que c'est au Capitole, mais pas des manifestations du genre.
Ce qui s'est passé a abouti à la mise en accusation du président Trump pour incitation à l'insurrection. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise en accusation? Est-ce que le président Trump s'est mis le problème?
Je pense que cette mise en accusation est tout à fait fondée et Trump le mérite. Il mérite même davantage d'être condamné et il mérite l'offense suprême qui est à conduire pour aucun poste. Là où on peut se tromper, c'est de croire que Trump est le problème. Trump est la manifestation d'un problème beaucoup plus profond.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ce pays est fondé sur la violence, est bâti sur la violence qui perdure. Il est bâti sur le racisme, sur la suprématie blanche. Et tant que ces fondements ne sont pas défaits, ne sont pas déconstruits, ben, ce ne sera pas une société apaisée. Ça peut durer des années, ça peut durer des décennies, mais jusqu'où et jusqu'à quand ce pays va-t-il vivre sur la base de la pratique de la violence institutionnelle et du racisme institutionnel?
Est-ce qu'il n'est pas plutôt fondé sur la tolérance?
Les États-Unis sont un pays unique, il faut le dire. C'est le pays où le blanc qui est venu d'Europe a retiré ce pays aux Native Americans, qu'on appelle abusivement les Indiens, et ce sont des immigrés qui ont décidé que le pays leur appartient, à eux d'abord, eux les Caucasiens, et que toute autre personne, tout autre groupe est, oui, bienvenu, oui, toléré, oui, accepté, mais pas les mêmes possibilités d'expression et de possession que le blanc. En ce sens que le fondement du pays, qui est la suprématie blanche, ne doit pas être remis en cause. Et c'est ça qui est en train d'être remis en cause. Et c'est ce qui fait cette rupture dans la société américaine. Il y en a qui ne le croient pas, peut-être, mais aux États-Unis, aujourd'hui, c'est très clair. Et les Américains le reconnaissent aujourd'hui. Ils ne l'auraient pas reconnu il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est évident et ça leur saute au visage. Donc, ils ne peuvent pas ne pas l'accepter. Mais en même temps, c'est le seul pays au monde où un immigré peut venir et ses enfants nés aux États-Unis peuvent accéder aux plus hautes fonctions. Ça, c'est unique aux États-Unis, dans le monde.
Merci pour votre contribution dans l'Amérique et vous.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Voilà, dans le Texas, Junior Bonpetit. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Eric.
Bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour l'invitation.
Vous êtes un soutien indéfectible du président Donald Trump, n'est-ce pas? Vous avez piloté l'initiative Congolese for Trump pour essayer de glaner plus de voix pour lui. Que pensez-vous de sa mise en accusation par le Congrès pour incitation à l'insurrection?
D'abord, je sais que le président Trump n'a jamais incité la population à la violence et il a toujours condamné la violence. Make America Great, ça a toujours été pour renforcer la police, respecter la loi. Il a toujours travaillé pour promouvoir ces valeurs-là. Donc, ce n'est pas ça. Alors, l'impeachment, ce n'est pas une surprise pour nous. Hein. Pendant 4 ans, on a toujours voulu, dès le premier jour, lorsqu'il a prêté serment en 2016, on a toujours le démettre de sa fonction avec tous ces impeachments, l'affaire de Russie et tout ça. Tout ce sont des choses montées en toutes pièces. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est une résultante d'une frustration accumulée par la population américaine en général et aussi nous qui avons porté les candidats Donald Trump. Et j'aimerais d'abord commencer par exprimer mon regret pour la tournure que cette manifestation au départ républicaine a prise. Donc je veux condamner la violence et aussi j'aimerais présenter mes condoléances aux familles de morts parce qu'il y a eu des victimes Mais au-delà de tout ça, M. Eric, nous devons aller à l'origine. Qu'est-ce qui a poussé à ce que ces événements-là prennent cette tournure malheureuse? Parce qu'on n'a pas pu prendre en compte, en considération, les allégations, les graves allégations pendant les élections. Et tout ça, et les plaintes. Je vous donne un exemple de grand État comme Texas, qui est le deuxième poumon économique des États-Unis, porte plainte. Et aussi, par sa plainte, il y a eu plus de 10 États qui ont joint la plainte de Texas à la cour, et les juges n'ont même pas pris le luxe d'entendre, de voir les cas et tout ça. Ils ont rejeté en bloc. Voyez-vous un peu comment ça donne les contrepoids, les réflexes. Mais c'est un désintéressement total.
Revenons sur l'attaque du Capitole. Est-ce que pour vous, ça a été un mouvement spontané?
D'abord, comme je dis encore, je condamne la violence. Nous sommes un parti contre la violence et nous soutenons law enforcement, la police et tout ça. Si vous êtes supporter des Républicains et de Donald Trump, vous êtes contre la violence. Et si vous faites la violence, vous êtes contre Trump et contre les Républicains. Donc, ce qui s'est passé, encore une fois, je condamne avec la dernière énergie, mais ce n'est pas les bons supporters de Donald Trump et les Républicains. Et lorsque vous avez eu le temps de suivre le discours du président Trump, c'était un discours pacifique, un discours où il présentait les faits. Et nous faisons une lutte non-violence.
Junior, merci beaucoup pour votre contribution dans l'Amérique et vous. Depuis Dakar au Sénégal, nous recevons Dame Babou, qui est également résident de New York. Dame, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Pour l'instant, vous vous trouvez au Sénégal. Vous avez suivi l'attaque du Capitole. Quelle a été votre réaction et aussi la réaction de certains Sénégalais? Qu'est-ce qui se dit autour de vous?
Il y a deux types de réactions. La première, c'est que comme déjà le président américain Donald Trump n'était pas bien populaire dans beaucoup de cercles d'élite ici en Afrique et en particulier au Sénégal, les gens se disent, bon, ça ne les surprend pas. L'autre réaction qui m'a quand même fait réfléchir, c'est que certains se disent, ah, ça justifie ce qui se passe ailleurs en Afrique. On nous a toujours donné des leçons de démocratie, etc., etc. On voit maintenant que l'Amérique n'est pas mieux lotie que nous, ce qui m'a souvent amené à discuter avec certains amis pour dire au contraire. Mais je pense que ce qui s'est passé devrait nous faire réfléchir. Cela veut dire qu'un président en exercice qui prétend que l'élection a été truquée contre lui, d'abord, ça montre que les institutions fonctionnent, que ce n'était pas lui qui avait organisé l'élection, et que deuxièmement, malgré le fait qu'il est le président de la République, malgré le fait que la moitié presque des électeurs ont voté pour lui, les institutions ont pu tenir. Malgré la tension qui monte depuis plus d'un an, je pense que donc l'Afrique devrait apprendre à dire que, comme un ancien président américain disait, que des institutions fortes sont importantes. Si l'Amérique n'en avait pas aujourd'hui, on ne parlerait pas d'attaque sur le Congrès, mais plutôt d'anciens candidats qui seraient en prison, la loi martiale, des arrestations, etc., etc.
Il y en a qui pensent que l'Amérique n'a plus de leçons à donner. Qu'en pensez-vous?
Il y a des gens qui le disent, mais écoutez, moi j'ai souvent quelques problèmes avec quelques rares membres de l'élite africaine qui veulent toujours trouver une raison de justifier leur propre comportement. Moi je pense que dans ce sens-là, ils l'ont souvent fait avec d'autres pays, hein, pour dire que bon, on a vu ce qui s'est passé en France, on a vu ce qui s'est passé en Angleterre, etc. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose de bon qui se passe en Amérique, vous leur dites même en Amérique, c'est comme ça que ça se fait, ils disent... Ah non, c'est pas le même niveau, nous n'avons pas les mêmes moyens. Mais quand on dit quelque chose comme ça, et c'est passé en Amérique, ils disent, voyez bien que nous aussi, donc nous avons le droit de le faire. C'est juste la justification de nos propres refus de respecter les règles de démocratie, ou bien notre désir de pouvoir ne pas respecter les règles de démocratie.
Est-ce que la mise en accusation du président Trump par le Congrès a surpris?
Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas que ça a surpris, parce que déjà, tout le monde pensait que c'est lui qu'il a fait, hein, dans l'entourage, en tout cas dans les gens avec qui je parle, c'est presque à l'unanimité. Tout le monde pense que c'est lui qui l'a commandité et que c'est lui qui en est responsable et que maintenant, la technicalité de devoir juger un président qui a déjà quitté le pouvoir, si on peut l'appeler ainsi, ça amène des gens à se poser des questions, mais c'est juste des questions techniques. Mais sur le fait que est-ce que celui qui l'a fait et qu'il devait être mis en accusation, je ne vois pas vraiment quelqu'un qui va à l'encontre de cette idée.
Vous êtes résident de New York. Lorsque vous observez la démocratie démocratie américaine. Que devraient faire les leaders des deux partis, républicains et démocrates, pour renforcer davantage la démocratie américaine?
Je pense que d'abord, le résultat de cette attaque, de cette confrontation, je pense va renforcer la démocratie américaine. Ça va consolider l'idée selon laquelle on ne peut pas manipuler le pouvoir pendant très longtemps aux États-Unis, parce que malgré tout, il n'y a pas beaucoup de présidents qui ont raté un deuxième mandat, ça c'est déjà ça. Ensuite, je pense que les républicains en particulier ont besoin d'arrêter de compter sur la stratégie du Sud, parce que le Sud lui-même est en train de changer. Donc on ne peut pas continuer à dire « je compte sur les pauvres, les moins éduqués, les presque racistes ou racistes pour me faire une base politique ». Ça ne suffit pas. Cette peau-là est en train de se rétrécir comme peau de chagrin, comme on dit. Je pense que le Parti républicain a besoin de savoir que l'Amérique est de plus en plus éduquée et de plus en plus urbaine, et donc il faut changer radicalement. Peut-être que les démocrates doivent cesser de penser que l'électorat progressiste lui appartient totalement. Je pense que non, le Parti démocrate doit réfléchir sur ce plan-là.
L'émission, c'est l'Amérique. Vous, selon vous, qu'est-ce que les Africains peuvent tirer de ce qui se passe actuellement aux États-Unis en termes de démocratie?
Moi, j'avais dit, quand Joe Biden a été élu président, on m'a posé cette question de beaucoup d'émissions. Qu'est-ce que les Africains attendent de l'élection de Joe Biden? Mais moi, la question que je me pose, pourquoi l'Afrique doit continuer à attendre quelque chose de ce qui se passe ailleurs? Pourquoi on pense que ce qui se passe ailleurs se fait pour nous ou contre nous? Mais pourquoi on ne pense pas à ce qui se passe chez nous, en Afrique, et d'arrêter de dire ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on peut en attendre ou bien qu'est-ce qu'on peut craindre? Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête ce comportement débilitant.
Dame Babou, merci beaucoup et bonne soirée à Dakar.
Merci, Eric.
Claude Porcella, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Je vous reçois depuis Washington, D.C. Ce que vous avez vu au Capitole, est-ce que ça vous a surpris? Vous vivez dans ce pays depuis très longtemps.
Oui, depuis plus de 50 ans, effectivement. Et ce que j'ai vu la semaine dernière était sans précédent. Ma réaction instinctive a été un sentiment de tristesse, parce que voir tout de même le temple de la liberté attaqué par un groupe d'extrémistes, car il ne faut pas généraliser, comme l'a dit le vice-président élu Joe Biden, ces gens qui ont participé à la prise du Capitole, qui l'ont assiégé, ne représentent pas la véritable Amérique. Et la meilleure preuve en est qu'une fois que les forces de l'ordre ont finalement intervenu et ont repoussé les émeutiers, les parlementaires se sont immédiatement remis au travail, comme si rien n'était, et en quelques heures, ils ont terminé leur tâche, c'est-à-dire qu'ils ont certifié la victoire de Joe Biden.
Un des intervenants dans cette émission disait que cela montrait que le pays est fondé sur un système de suprématie blanche. Est-ce que vous y croyez?
Écoutez, oui, effectivement, il y a des mouvements extrémistes blancs, ça c'est certain, mais c'est pas une chose nouvelle, ça existe depuis des années. Rappelez-vous le Ku Klux Klan au début du XXe siècle. Donc il y a toujours eu des extrémistes blancs. Sous la présidence de Barack Obama, ne l'oubliez pas, il a été victime de près de 400 menaces de mort par ces extrémistes. Donc ils existent, mais enfin, il faut tout de même minoriser. Ça ne représente qu'une infime minorité de la population américaine.
Ce qui n'est pas un système de gouvernance.
Non, absolument pas. Absolument pas.
Et comment vous voyez l'avenir de ce pays?
Bien, écoutez, je reste malgré tout optimiste. Les institutions sont solides. Elles ont été sérieusement ébranlées au cours de 4 années de présidence de Donald Trump. Mais les institutions sont toujours là. Les élections ont été lues. Et le 20 janvier, un nouveau président va être élu. Une des grandes fiertés des Américains, c'est que la transition d'une présidence à une autre est en général pacifique, paisible. Ça ne sera pas le cas cette fois. On redoute que de nouvelles violences aient lieu d'ici le 20 janvier. C'est pour ça que Washington ressemble à une véritable forteresse 5000 gardes nationaux, toutes les forces de police mobilisées, des barricades partout, tout le centre-ville est bloqué. Mais normalement, et d'une certaine façon, c'est ironique de le dire, mais la pandémie va un peu aider parce que cette inauguration, cette investiture va se dérouler essentiellement virtuellement, ce qui veut dire que la majorité des gens vont rester chez eux. Est-ce que les trumpistes, les plus extrémistes, bien sûr, vont essayer de perturber la cérémonie? J'ai l'impression que devant ce déploiement de force, ils sont tout de même un peu refroidis, leur enthousiasme sera tout de même un peu refroidi et qu'ils hésiteront à de nouveau exercer des actes de violence.
Claude Porcella, merci beaucoup.
Avec plaisir, Eric. Bonne soirée.
Bonne soirée. Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. On parlait de la politique américaine. Merci de nous avoir suivis. Lionel Lunenia-Gariba assure la mise en onde. À la prochaine. We'll